dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 11 octobre 2024. Vous êtes sur VO Afrique, nous émettons depuis Washington DC, ici même aux États-Unis, et ce soir nous parlons de l'ouragan Milton et de la gestion des catastrophes. En Floride, le puissant ouragan Milton, qui a causé la mort d'au moins 16 personnes, a également entraîné les destructions considérables, laissant plus de 3 millions de foyers sans électricité. Les autorités locales ont signalé des tornades dévastatrices survenues avant l'arrivée de l'ouragan, aggravant ainsi la situation déjà précaire après le passage récent de l'ouragan Helene. Tout cela soulève des questions cruciales sur la préparation et la réponse des gouvernements face à des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes et souvent exacerbées par le changement climatique. En effet, les scientifiques mettent en avant que la hausse des températures des océans et l'élévation du niveau de la mer augmentent non seulement l'intensité des ouragans, mais aussi le risque de phénomènes météorologiques extrêmes. Au cours de cette émission, nous allons explorer les mesures prises par les autorités, la gestion des évacuations et le rôle des agences fédérales comme la FEMA. Nous discuterons également avec nos invités des implications politiques, notamment des critiques concernant la gestion des ouragans par l'administration actuelle et des répercussions sur la sécurité des populations. Ce sera l'occasion de réfléchir sur comment améliorer la résilience face à ces catastrophes et d'anticiper les défis futurs liés au changement climatique. Pour discuter de tout cela, nous avons comme invité ce soir le professeur Amadou Tierno-Gueye. Il est climatologue et enseignant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Professeur Amadou Tierno, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Hilaire Ntiganzwa, résident de Tampa dans l'État de Floride, est également avec nous. Hilaire, bonsoir.
Bonsoir, Jean.
Alors, merci d'être avec nous. On sait que vous êtes un peu pris en ce moment. À New York, nous avons l'historien et analyste politique Mohamed Mbodj. Il est professeur d'histoire à Manhattanville College. Mohamed Mbodj, bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour votre fidélité à ce programme. Hilaire, je commence par vous et déjà vraiment merci du temps que vous nous accordez, connaissant la situation de ce côté de la Floride. En tant que résident de Tampa, comment avez-vous vécu les récents ouragans? Je veux parler d'Helene, de Milton. Et quelles ont été vos peurs quand tout cela se passait?
Bon, merci de m'avoir invité. Si je reviens de la situation que nous avons vécue ici, c'était une situation très catastrophique, de peur. Bon, spécialement comme moi, je viens du Burundi, je suis originairement du Burundi, où j'ai vécu un temps de guerre. C'était comme la guerre, mais une guerre où tu ne sais pas qui sont en train de se battre. Tu ne vois pas les militaires qui se battent, tu ne vois les belligérants et tu dois fuir. Donc c'était une situation de peur où on ne sait pas quoi faire, spécialement qu'on était en train se resituer après Helene et voilà, Milton est arrivé. Donc c'était une situation de peur. Et puis surtout pour moi, ça fait seulement 2 ans et presque 3 ans, j'aurai 3 ans vivant ici à Tampa. Donc, ce sont des situations auxquelles je ne m'étais pas habitué. Mais il faut et aussi, il faut en même temps prendre une décision très rapidement, décider s'il faut évacuer ou bien s'il faut rester sur place. Il faut écouter les informations, il faut demander les avis de, des personnes qui ont vécu ici un peu plus longtemps.
Sinon,
c'est une grande situation de peur.
Sinon, votre famille va bien, j'espère.
Tout le monde va bien, là où j'habite, à la maison.
D'accord.
Bon, il y a eu des destructions mineures. Je dirais seulement, c'est le toit de la piscine qui s'est envolé. Et puis, beaucoup de débris qui sont partout, surtout dans la piscine, autour de la maison. Mais j'ai des voisins qui ont les toits qui ont été arrachés. Aussi, dans mon quartier. Et j'ai vu, par exemple, puisque moi, j'habite dans la zone, dans une région qu'on appelle Land or Lakes. Nous avons beaucoup de lacs, et même dans mon quartier, il y a plusieurs lacs. Derrière moi, il y a même un très grand lac. Donc, il y avait un lac qui, dans le quartier, que j'ai vu qui a beaucoup inondé et a déversé l'eau dans les maisons qui étaient à côté.
D'accord.
Et puis, donc, je conduisais là-bas, bon, l'eau, même sur la route où je conduisais, probablement c'était un pied. Donc imaginez un pied sur la route, ce qui se passait à l'intérieur de la maison qui était vraiment très proche du lac. Ça doit être de la catastrophe.
D'accord. Merci encore d'être là. Professeur Amadou Tiernogueye, vous avez suivi, comme nous, cette actualité des ouragans et toutes les conséquences qu'ils entraînent. Qu'est-ce que cela vous inspire comme réflexion en tant que climatologue?
Alors, ce que ça m'inspire, c'est deux choses. Déjà, ça signifie que nous sommes en plein dans ce que les scientifiques ont prédit depuis maintenant de nombreuses années, en particulier dans les différents rapports du GIEC, que la température du globe est en train de se réchauffer, et de réchauffer à un rythme très important, et que cela entraîne, bien entendu, des modifications importantes, en particulier du cycle de l'eau et aussi cela entraîne également la possibilité d'observer de plus en plus d'événements climatiques extrêmes. Et la deuxième chose, c'est que, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, les différentes parties du monde sont vraiment reliées les unes aux autres du point de vue climatique. Ce qu'on observe, bien entendu, du côté de l'Atlantique aux États-Unis, avec des cyclones de cette intensité du type de Helene et Milton, sont formés dans l'océan Atlantique. Et avant d'être formés dans l'océan Atlantique, d'abord sous forme de dépression tropicale, ensuite de cyclones quand ils arrivent, cyclones de différentes intensités, ce sont des systèmes nuageux qui fournissent les précipitations qu'on observe en Afrique. En partant de l'Afrique du centre, l'Afrique de l'Ouest, et après, quelque part, si l'océan n'est pas suffisamment chaud, ces systèmes disparaissent en mer. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec le réchauffement climatique, ces systèmes seront renforcés parce qu'ils trouvent le carburant, le fuel dont ils ont besoin pour se renforcer et bien sûr donner ses conséquences aux États-Unis. Mais bien entendu, on a observé aussi qu'en Afrique de l'Ouest, en Afrique de façon générale, centrale et l'Ouest cette année, les inondations ont atteint des niveaux qu'on n'a pas connus jusqu'à présent.
Et on en parlera tout à l'heure. Mohamed Mbodj, on a tous en souvenir l'ouragan Katrina qui avait fait près de 1400 morts et des dégâts estimés à près de 125 milliards de dollars. C'était à la fin du mois d'août 2005. À l'époque, la Nouvelle-Orléans et ses environs avaient été les zones les plus touchées. Depuis lors, qu'est-ce qui a changé dans la gestion de telles catastrophes ici aux États-Unis?
Pas grand-chose, parce que fondamentalement, il y a encore beaucoup de sceptiques aux États-Unis qui pensent que peut-être sont des accidents naturels plutôt qu'une sorte de tendance qu'on peut prévoir, d'une part, et d'autre part, il y a bien entendu l'aspect colossal des pertes qui fait qu'il est extrêmement difficile de mobiliser des fonds sans savoir exactement combien ça va coûter. Et troisièmement, maintenant, et de plus en plus, quelque chose qui peut-être n'existait pas il y a une dizaine, vingtaine d'années, une sorte de rivalité politique parce que certainement dans beaucoup d'États, en particulier dans des États du Sud, où actuellement ils sont un peu en opposition avec le gouvernement de Biden, on va essayer d'utiliser donc cet événement comme facteur politique. Donc ce qui fait que cette sorte de d'unanimité, d'élan de générosité, et même j'ai eu un collègue qui a fait un cours d'histoire intitulé « Avant » ou après Katharina, et pour lui c'était un événement extrêmement important qui changeait tout et sur le plan de la perspective historique. Et je pense que maintenant on se retrouve dans une situation où il y aura beaucoup de Katharina, mais cette sorte de l'union nationale s'effrite et peut-être certainement ne va pas se reconstituer dans les mêmes contours qu'elle s'était constituée durant la catastrophe de Katharina.
Professeur Amadou Tiernoguei, lorsqu'on voit l'ampleur de ces catastrophes justement, que ce soit ici aux États-Unis ou en Afrique et même ailleurs dans le monde, est-ce que les pays africains sont mieux outillés, mieux préparés pour faire face à de telles catastrophes d'envergure? Ces derniers temps, beaucoup de pays africains, vous le soulignez tout à l'heure, sont frappés par des inondations, par exemple.
On ne peut pas dire que les pays africains sont mieux préparés. Ce qu'il y a d'ailleurs, c'est le paradoxal, c'est que en parlant de l'Afrique, on le sait, disons pendant trois décennies, en particulier les pays sahéliens, ont connu des sécheresses importantes. Et encore aujourd'hui, malgré le retour des précipitations et aussi la remontée des quantités d'eau, on constate qu'il y a encore des sécheresses ça et là, et en particulier aussi dans les saisons pluvieuses. Donc on a vraiment ce paradoxe où on a soit beaucoup d'eau, donc les inondations, qu'on ne sait pas gérer finalement, ou bien très peu d'eau, donc les sécheresses. Et donc, bien entendu, la grosse difficulté pour les pays africains, on le voit à l'échelle des dégâts que cela occasionne, hein. Je dois le rappeler, on n'est pas dans les mêmes amplitudes comparées des inondations dues au débordement de fleuves, parce qu'il s'agit de ça, pour ce qu'on observe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, et de temps en temps dans les milieux urbains, des inondations dues à des pluies extrêmes, c'est-à-dire une trop forte quantité de pluie pendant un temps très court, c'est incomparable avec, par exemple, un cyclone du type de Mitch ou de Katharina ou de Milton, pour parler de cette année. Donc, bien entendu, la grosse différence, pourquoi on n'arrive pas à mieux gérer ça en Afrique, c'est bien entendu que les capacités sont beaucoup plus faibles, les capacités de réaction. Je devrais commencer par le commencement, les connaissances. Même si on a vécu dans ces régions depuis de très nombreuses années, on continue encore à ne pas très bien connaître notre climat, paradoxalement. Et bien entendu, il y a très peu de ressources qui sont mises pour l'anticipation, alors, la préparation.
Pardonnez-moi, Hilaire Ntinganzwa, on parle de préparation, on parle de ressources. Comment la communauté locale s'organise-t-elle pour faire face à ces catastrophes là où vous vivez, et quelles ressources sont mises à votre disposition en ce moment?
Tout d'abord, c'est ce qui est très important à noter, quand on parlait même de Katrina, on a vu que pendant l'ouragan de Katrina, il y avait eu beaucoup de morts, mais cette fois-ci, on peut voir que le nombre de morts est limité, que ce soit pour Hélène, que ce soit pour Milton. C'est parce que les gens ont suivi les ordres du gouvernement. Ici, vraiment, ce que je trouve, c'est que le gouvernement local, fédéral, c'est bien organisé. Tout le monde connaît la zone où on se trouve et on nous exige de partir. On disait que celui qui se trouve dans la zone A jusqu'à C et qui ne veut pas évacuer, il faut écrire sur ta jambe avec à marquer indélébile le nom, les noms, pour qu'une fois on retrouve ton cadavre, on puisse t'identifier. Ça faisait même peur aux gens, dit bon, c'est comme si je reste, je suis mort. Et donc les gens ont dû évacuer parce que les autorités ont vraiment bien locales ont bien montré le danger qu'ils faisaient face. Bon, maintenant, ce que je trouve, c'est qu'il y a énormément de dommages au niveau matériel. Les maisons qui sont inondées, Par exemple, moi, je suis chanceux parce que j'ai encore de l'électricité, de même que de l'Internet, bien qu'hier, l'Internet n'était pas bon. Mais d'autres n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'eau. Par exemple, Saint-Pétersbourg, c'est là où même je travaille, ils n'ont même pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien. Donc, et les maisons sont inondées, maintenant les rivières sont en train de, sont pleines d'eau et sont en train de se déverser dans les habitations. Donc, le grand problème que je trouve ici en Floride, c'est que, comme un des intervenants le disait, c'est qu'on politise trop cette situation et parce que nous approchons les élections, chacun cherche à gagner de cette crise des points pour les élections. Mmh. Alors que ça ne devait pas être comme cela. Mais aussi le plus grand problème, c'est qu'il y a beaucoup de destruction et puis le gouvernement ne fait pas suffisant pour les assurances. Par exemple, maintenant, les assurances des maisons, ça va monter. Après la destruction de Ian, qui s'est passé, je crois qu'il y a 2 ans, c'était Fort Myers. On a eu des effets ici aussi à Tampa. Donc, l'assurance sur les maisons a beaucoup monté, beaucoup d'assureurs ont quitté la région. Et maintenant, c'est même encore une fois, ça va être encore une fois la catastrophe, puisque le gouvernement continue à faire monter les impôts sur les maisons, il continue à faire monter. Et puis, les taxes montent, et les taxes sur. Et aussi, les taxes montent. D'accord. Les assurances montent, que ce soit sur la maison, sur les voitures. C'est ça qui va tuer la population de Floride et qui va pousser certaines personnes à quitter la Floride, Tampa, pour aller ailleurs à cause des ouragans.
Alors, on parlait de politique, Mohamed Mbodj. Nous sommes en pleine campagne électorale ici aux États-Unis, tout le monde le sait. Et les ouragans, Helene et Milton, se sont invités dans les débats. J'ai dit, par exemple, le président Joe Biden a publiquement réprimandé Donald Trump, disant à son prédécesseur de s'échanger les idées et d'essayer d'aider les personnes touchées par 2 ouragans dévastateurs plutôt que de répandre des informations erronées sur la réponse du gouvernement fédéral. Comment est-ce que vous expliquez cette atmosphère alors qu'on devrait plutôt être en train de construire un élan de solidarité? Mohamed Mbodj.
Et d'autre part, de beaucoup de leaders républicains, même de Santis, qui d'une part, beaucoup de gens disent qu'il fait un travail décent comme gouverneur, mais qui ne peut pas résister à, disons, prendre date à côté de Trump, parce qu'il est certainement, il sera certainement candidat encore dans le futur. Et donc, il y a une sorte de propagande qui va se faire assez différente pour ses motivations. Trump, c'est évidemment pour des gains actuels, un tout petit peu pour noircir la gestion de Biden et de dire qu'en fait, l'argent qui aurait pu aider les Américains est maintenant diverti vers l'Ukraine ou l'Afrique ou ailleurs, quelque chose comme ça. Donc, qui est un disque rayé d'ailleurs, parce que beaucoup de politiciens l'ont dit dans le passé. Alors que du côté de Santis, par exemple, et d'autres gouverneurs et d'autres responsables républicains du Sud, c'est plutôt un peu pour, d'abord pour joindre ce chorus, pour ne pas souffrir de la vindicte de M. Trump, mais aussi, donc, en particulier pour M. DeSantis, de prendre date et de montrer que, en dépit de ce que le gouvernement n'a pas fait, le gouvernement fédéral, lui, il a pris en charge, il a fait le maximum et il a fait mieux que le gouvernement fédéral, etc., etc. Et ça, ce sont des ambitions politiques qui dictent ce genre de choses. La médiatisation à l'extrême maintenant de ces scènes où toutes les 2 ou 3 heures, quelqu'un se met avec un blouson, avec des médailles dessus pour dire que c'est le porte-parole, c'est le responsable de FEMA, c'est le responsable des secours dans cette zone, etc. Donc beaucoup de gens qui sont aussi sous le spotlight, comme on dit, donc sous le faisceau des lampes et de la télévision, et qui quelquefois jouent un peu à assombrir le tableau pour bien montrer qu'ils ont fait leur travail et qu'ils méritent des félicitations. Mmh. Donc il y a toutes ces choses qui s'imbriquent et certains certaines sont certainement politiques, d'autres sont d'ambition personnelle très simple, très, peut-être même très crasse, disons, et d'autres sont parce que quelquefois aussi les problèmes sont insurmontables. Notre collègue sur le panel a parlé de l'assurance, c'est un énorme problème. Dans ce pays, l'assurance a été subventionnée dans beaucoup de zones par le gouvernement fédéral qui, à un moment donné, dit ben, on ne peut pas subventionner des gens qui vont construire dans des zones qui, techniquement, seraient non édificantes. Ce sont des zones qui, en Europe ou ailleurs, personne n'oserait construire, mais aux États-Unis, ça, au nom de ces droits de propriété, on construit partout où on veut construire, c'est tout.
Alors, professeur Amadou Tiernoguet, parlons un peu de sensibilisation. Du point de vue de l'enseignement, de l'enseignant que vous êtes, quel rôle les universités peuvent-elles jouer dans la sensibilisation et la formation autour des catastrophes naturelles et même du changement climatique? On constate que beaucoup n'y croient pas malgré les manifestations telles que les ouragans.
Ben, les universités doivent continuer à faire leur métier, bien entendu, de produire des connaissances, parce qu'encore une fois, je l'ai dit, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, en particulier le cycle dans lequel on s'est installé, du fait de l'accélération du réchauffement, et donc, y compris même l'évaluation des impacts ou bien des conséquences. Des différents phénomènes que induisent le changement climatique. Donc, cela suppose bien entendu augmenter les capacités humaines, donc des jeunes de plus en plus formés sur ces sujets, les différents sujets d'ailleurs relatifs au changement climatique, à la fois sur la connaissance des aspects physiques, donc comment cela se manifeste à différents endroits de l'Afrique, et cela suppose bien entendu faire du monitoring. On n'observe pas suffisamment ce qui se passe sur le terrain. En tout cas, il y a beaucoup d'endroits et dans nos contrées, dans nos pays, qui ne sont pas suivis, où on n'observe pas ce qui se passe. Or, si on n'observe pas, si on ne mesure pas, donc on ne peut pas connaître. Et si on ne connaît pas, on ne peut pas agir. Et après, il faut former les jeunes, il faut les former, il faut également transmettre toutes ces connaissances aussi au grand public. Il faut qu'on puisse... c'est la même problématique aux États-Unis, en fait, en parlant des inondations urbaines. C'est ce qui est arrivé ici, bien entendu, c'est une conséquence un facteur multiple. On le sait, 30 ans de sécheresse ont poussé beaucoup de gens, on a amené beaucoup de gens dans la pauvreté, mais en même temps, les ont poussés à aller dans des zones qui ne sont pas édificantes, donc des zones qui, au retour des pluies, deviennent inondées. Donc,
voilà, il y a quand même. Voilà ce qui est dit. Tire à la fin de cette émission, on va faire un dernier tour de table. Hilaire Ntinganzwa, est-ce que le fait de vivre ces catastrophes change votre façon de voir les choses par rapport au changement climatique? Et puis, est-ce que vous allez continuer de rester à Tampa?
Bon, personnellement, j'ai toujours cru au changement climatique. Bon, je suis ingénieur de formation, donc c'est de la science. Je crois à la science, donc ça ne change rien. Bon, je sais que si on ne fait pas attention, nous, les êtres humains, nous risquons d'être la cause de notre disparition. Bon, pour à ce qui concerne si je vais rester toujours à Tampa, je vais rester ici à Tampa. Bon, je suis en train d'apprendre comment vivre ici. C'est un très bon endroit. Et puis, bon, j'ai un bon travail ici aussi.
D'accord.
Seulement, bon, ce que je conseille aux gens qui auraient envie de venir vivre ici, quand ils cherchent où habiter, il faut vraiment... reconnaître les zones d'évacuation et puis
voilà.
Voir s'il y a la pente, c'est là où tu vas habiter.
Merci.
Pour éviter toutes ces inondations.
Merci beaucoup. Mohamed Bodj, très rapidement, est-ce que vous pensez que la gestion des ouragans aura des répercussions sur le choix du prochain président par les Américains?
Je ne suis pas convaincu parce que fondamentalement, les Américains peuvent être raisonnables devant ces catastrophes et même une sorte d'humilité. Une humilité qui va durer quelques mois, quelques semaines, et
voilà.
Qui fait que certainement dégager des responsabilités pour punir les gens qui n'auraient pas fait ce qu'ils n'auraient pas ce qu'ils auraient pu faire, certainement, je ne pense pas. Mais d'une façon générale, ça n'empêche pas les responsables politiques, ceux qui sont en lice,
c'est entendu.
Des choses, effectivement, pour pouvoir en bénéficier.
Alors, on va terminer par un petit mot de la fin. Professeur Amadou, en un mot, mot de la fin. Voilà. On a terminé cette émission de l'Amérique et vous, présentée par John Lindon, production Michel Joseph. Merci à tous d'avoir suivi. Restez à l'écoute des programmes de VOA Afrique qui se poursuivent avec l'information. Jean-Roger Billon est de retour.